Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le haut-commissaire Louis Lefranc. Monsieur le haut-commissaire, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Merci de répondre à notre invitation alors que l'on a appris jeudi dernier, au lendemain du Conseil des ministres, que vous alliez quitter la Nouvelle-Calédonie après un peu plus de 2 ans dans vos fonctions. Votre successeur a été nommé, il s'appelle Jacques Billon. Vous-même, monsieur le haut-commissaire, vous êtes arrivé en février 2023. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Est-ce que vous vous attendiez à ce changement, à l'annonce d'un remplacement, ou est-ce que vous avez été surpris ?
Ni l'un ni l'autre. En fait, je savais qu'au bout de 2 ans et 3 mois, puisque c'est le temps passé pour ce qui me concerne en Nouvelle-Calédonie, ce changement pouvait intervenir à tout moment.
Et donc, vous ne l'attendiez pas spécialement à ce moment-là, mais quand c'est tombé, vous... De mercredi en mercredi, on dit, hein, c'est ça ?
C'est ça, c'est tombé.
Alors, vous avez donc quitté la Nouvelle-Calédonie et... Certains observateurs ont été un peu surpris parce que c'est en pleine séquence de discussion sur l'avenir institutionnel. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un petit peu frustrant parce que vous avez suivi comment les choses se passaient, les différentes discussions entre les uns et les autres ?
Bon, il y a toujours un moment où il faut lâcher prise. C'est la vie préfectorale, c'est comme ça. Voilà.
Et vous allez quand même essayer de suivre un peu et attendre de voir comment les choses vont se passer. Ça vous intéresse encore, on imagine ?
Bah, évidemment.
Évidemment. Pour tous les Calédoniens, je ne vais pas vous demander qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre séjour, quel était le moment le plus dense ou le plus intense, parce que pour tout le monde, vous êtes le haut-commissaire qui a dû faire face au 13 mai et à cette violence insurrectionnelle inédite, comme l'avait qualifié le chef de l'État. Très franchement, est-ce que vous étiez préparé à une telle situation ?
Je vais répondre à votre question par une autre question. Qui est préparé à gérer une insurrection ? Sincèrement. On a dénombré à peu près 12 000 émeutiers dans le Grand Nouméa. Le Grand Nouméa, c'est immense, hein, c'est des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et à l'extérieur du Grand Nouméa, environ 20 000. Vous voyez ? C'était vraiment un mouvement insurrectionnel. C'est pas des émeutes qui durent quelques jours, comme ça a pu se produire ici ou là. Je parle pas de la Nouvelle-Calédonie. C'était vraiment un mouvement insurrectionnel, un mouvement de masse. Il y a eu plus de 300 barrages hein, qui ont été... érigé en quelques jours, en quelques nuits, en Nouvelle-Calédonie. Et donc, pour ce qui me concerne, moi, j'ai fixé des objectifs aux forces de l'ordre. Je me suis adapté, bien évidemment, aux situations qui évoluaient de jour en jour. C'est des conduites opérationnelles. Et j'ai fait tout cela, évidemment, avec les chefs des forces de sécurité intérieure, donc le général Mathéos et son adjoint, le colonel Bayarja, mais aussi avec... directeur territorial de la police nationale, Jean-Marie Cavier, et tous ceux qui sont venus l'appuyer depuis la métropole, en particulier depuis la capitale, et son adjointe Anne-Gabrielle Gabellil, la directrice territoriale adjointe de la police nationale. Mais tout ça, je l'ai fait en liaison étroite avec l'autorité judiciaire. Parce qu'il y avait un objectif, c'était l'attrition judiciaire des objectifs. Et c'est pas fini, c'est un travail qui se poursuit. Donc c'est une relation réciproque de confiance partagée avec le procureur de la République qui a été la clé de voûte de la réponse de l'État.
Alors vous dites qui est préparé à ce genre de choses. Bien sûr, on est en une insurrection, c'est toujours forcément c'est un côté inattendu et exceptionnel. Mais on a l'habitude aujourd'hui en métropole, par exemple, de la guérilla urbaine. On a vu, sans que ce soit comparable, hein, mais les gilets jaunes, les manifestations d'agriculteurs qui sont parfois très violentes. Ici, ça avait une dimension particulière qui faisait qu'on n'était pas forcément, ou vous n'étiez pas, ou les forces de l'ordre n'étaient pas forcément préparées à faire face aux phénomènes auxquels on a assisté.
Spontanément, ce que vous dites, oui, mais on s'y préparait progressivement, on s'est adapté. Hein. On est là pour s'adapter aux situations auxquelles on est confronté, c'est ce qu'on a fait. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. La sécurité, le maintien de l'ordre, tout ça, c'est une compétence régalienne. Et donc, avec les responsables des forces de sécurité intérieure dont je vous ai parlé, eh bien, on a analysé ce qui se passait sur le territoire, et notamment sur le territoire du Grand Nouméa. Et la première chose que nous avons fait, c'était d'abord d'assurer la sauvegarde des points d'intérêt vitaux. D'abord faire ça. Et la seconde, ça a été de reconquérir les quartiers, notamment les quartiers du Grand Nouméa, de la ville de Nouméa et des communes périphériques que vous connaissez tous. Et puis enfin, de rétablir les itinéraires qui étaient bloqués par des barrages, en commençant par les itinéraires les plus importants. C'est ça qu'on a fait. Et donc, on a progressé, mais pour cela, il fallait être en mesure d'inverser le rapport de force, c'est-à-dire être plus puissant que l'adversaire. Et pour dès lors que nous avons été plus puissants, eh bien, ce que je viens de vous décrire, très sommairement, en deux phases, a pu s'accélérer, même si ça a pris du temps.
Parce que vous avez reçu des renforts, vous avez reçu du matériel également, beaucoup de matériel qui est arrivé.
Oui, on a reçu beaucoup de matériel, beaucoup de renforts. On est monté quand même jusqu'à 42 unités de force mobile, CRS et gendarmes mobiles. Les militaires aussi ont été mis à contribution pour assurer la protection en renfort des points jugés stratégiques ou sensibles. On en avait besoin puisqu'on ne pouvait pas distraire une partie de nos forces pour assurer la protection et simultanément gérer les affrontements que nous avions avec des émeutiers. Donc ça a été un renfort considérable, mais un renfort nécessaire pour rétablir l'ordre sur les territoires calédoniens.
Question plus personnelle, si vous le permettez. Est-ce que votre formation, puisqu'on sait que vous avez fait l'école militaire de Saint-Cyr, est-ce que cette formation vous a aidé à faire face à ce genre de situation? Puisque vous le dites, on n'est pas préparé. Est-ce qu'il fallait quelqu'un qui connaisse un petit peu le rapport de force, l'utilisation des forces de sécurité, peut-être plus qu'un préfet un peu classique, sans les critiquer, mais qui n'aurait fait que Sciences Po et l'ENA, quoi.
Bah, c'est sûr, la formation initiale qui a été la mienne n'a pas été un handicap. Je vais vous dire ça comme ça. Moi, je ne me mets pas dans des logiques de comparaison. On essaie tous d'agir, pour ce qui nous concerne, dans le corps préfectoral, avec bon sens, nous adapter aux situations. On n'est pas seul. On a autour de nous des professionnels dans le domaine de la sécurité, du renseignement. Donc, il y a beaucoup de professionnels qui sont impliqués dans la gestion d'une crise comme celle-là. Et donc, c'est certain que la formation qui a été la mienne a pu m'aider à gérer déjà en tant que haut commissaire à gérer le stress. Parce que c'est un stress. Être réveillé toutes les nuits pendant des semaines et des semaines et donner des directives aussi claires que possible, en prenant le risque de se tromper, c'est stressant. Parce que derrière, il y a des enjeux de vie humaine, il y a des enjeux aussi de bien. Bien matériel, sur les habitations en particulier, sur les entreprises qui ont été très affectées par tout ce qui s'est passé. Donc tout ça ne peut pas être totalement étranger de celui qui a des directives à donner de nature opérationnelle auprès des responsables des forces de l'ordre.
Alors près d'un an plus tard, puisque ça va bientôt faire un an, c'était le 13 mai, je le rappelle, on est le 18 avril, quel bilan faites-vous? On a parlé à l'époque, certains ont même parlé de tentatives de coup d'État. On n'a pas su comment appeler ce mouvement, violence insurrectionnelle, émeute, tentative de coup d'État. Est-ce que vous avez le sentiment que, quand même, on a évité le pire? C'est aussi un sentiment qu'ont eu un certain nombre de Calédoniens.
Écoutez, je vais vous répondre très brièvement à ce que je pense, vraiment, très sincèrement, c'est qu'on a évité une guerre civile.
Voilà. Et c'était un peu votre objectif, votre mission, d'éviter qu'il y ait des contacts directs entre les populations?
Bah, évidemment, d'un côté... Il y avait des agresseurs, de l'autre, des personnes qui craignaient d'être agressées, et ça peut aller très très vite. Donc il fallait éviter que ce type de confrontation se produise, parce que alors là, ça aurait été un enchaînement périlleux, dangereux pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc moi, j'ai fait en sorte de conserver un rapport de force que je qualifierais de sain, c'est-à-dire d'un côté, les forces de sécurité intérieure, de l'autre, les émeutiers. Je l'ai expliqué à tous ceux qui devaient l'entendre. Je ne sais pas s'ils l'ont tous compris, mais je voulais surtout éviter une guerre civile. On l'a évité, et je pense qu'on a évité le pire.
Alors, un an plus tard, forcément la question aussi que beaucoup de Calédoniens se posent, est-ce qu'il faut craindre que ça puisse recommencer? Est-ce que la réédition de ces émeutes est un phénomène envisageable? Est-ce qu'il y a aujourd'hui les conditions pour une nouvelle flambée de violence en Nouvelle-Calédonie? Et bien sûr, est-ce que l'État se prépare à y faire face, le cas échéant?
Je ne crois pas, moi, à une nouvelle flambée de violence. Je ne crois pas à un deuxième 13 mai, le 13 mai prochain. J'y crois, mais vraiment pas du tout. Tout d'abord, le contexte a évolué. Il n'est pas le même qu'il y a un an. Il n'y a pas des manifestations de masse comme ça s'est produit début avril, le 13 avril dernier, en 2024, le 8 mai, le jour de la commémoration de la fête nationale, à 5 jours du 13 mai, il n'y a rien de tout ça. Aujourd'hui, les formations politiques locales opposées se parlent en présence de l'État. Il y a une volonté, hein, qui je pense est sincère et réelle, de recherche de compromis, même si c'est très difficile. Mais les gens discutent entre eux. L'objectif, c'est celui d'un accord équilibré, gagnant-gagnant. Et puis, ces émeutes, il y a un an, ont eu pour effet de plonger beaucoup de familles dans la misère. Parce que l'outil de travail, une partie de l'outil de travail a été détruit. Donc il y a, je pense que, avant de refaire une deuxième vague de violence comme celle qui s'est passée le 13 mai l'an dernier, beaucoup vont réfléchir, enfin, du moins je l'espère. Non, à titre personnel, je n'y crois pas. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont été détruites, environ 800. 1300 entreprises, vous vous rendez compte, qui ont été impactées. Ah, ça donne beaucoup de chômeurs, tout ça. Des gens qui sont privés de leur outil de travail, donc de ressources financières. Courant septembre 2024, on évaluait à 30 000 chômeurs en Nouvelle-Calédonie, et essentiellement sur le Grand Nouméa, et quelques communes situées en province sud. Il y a aussi d'autres chômeurs. Ce n'est pas lié aux exactions, mais lié à la fermeture de l'usine métallurgique du Nord, KNS. Donc beaucoup de gens qui se sont trouvés avec leur famille plongés dans la misère, avec une perspective pour retrouver du travail assez lointaine. C'est ça le contexte. Bon, beaucoup d'entre elles et d'entre eux ont retrouvé du travail. Il en resterait environ, en chômage classique, environ 5000 personnes au chômage, et au titre des exactions, 9000. Ça fait environ 14000 personnes. C'est énorme. En Nouvelle-Calédonie, en moyenne, il y a 3 4 000 chômeurs. C'est un chômage structurel. C'est un chômage frictionnel, un chômage faible. Alors là, aujourd'hui, il y en a quand même 14 000. Donc, je pense que tout ça doit contribuer à faire réfléchir toutes celles et ceux qui pourraient en avoir besoin avant de s'engager dans une nouvelle vague de violence.
Une sorte de prise de conscience, selon vous, des conséquences de leurs actes ?
Oui, oui, oui. Non, c'est, très sincèrement, je pense que beaucoup, d'ailleurs, qui étaient impliqués dans ces violences, n'avaient pas mesuré les effets de ces émeutes. Maintenant, il y a des mesures. Et donc, je ne crois pas, moi, à une nouvelle vague de violence, ni le 13 mai prochain, ni plus tard. Parce qu'il y a vraiment une volonté d'échanger. Bon, je suis témoin de ces échanges, bien évidemment. Une volonté de trouver des solutions de compromis, ça va être très difficile, mais il y a cette volonté. Donc s'il y a de la volonté, il y a d'espoir.
Mais il y a quand même encore de l'insécurité, bien sûr. Il y aura toujours des actes de délinquance, mais là on sent qu'à chaque fois ça crispe davantage les gens et ça les inquiète. Il y a des voitures qui brûlent, il y a des infirmiers qui sont attaqués, il y a eu la soirée au 1881 qui a dégénéré. Face à tout ça, est-ce qu'il y a un dispositif particulier qui est mis en place pour éviter que ça généralise ou pour éviter qu'il y ait plusieurs de ces incidents qui arrivent en même temps et qui risquent de créer encore une psychose ou en tout cas des violences incontrôlables ?
On a les forces. On a des gendarmes mobiles, on a des policiers, on a des blindés. On a beaucoup de véhicules blindés. On est certainement le territoire qui en a le plus.
On a gardé les Centaures.
On a gardé les Centaures, mais on a aussi des véhicules blindés de la gendarmerie, des VBRG, des VBRG LAM. On a tout ce qu'il faut et actuellement, nous préparons un dispositif, justement, pour y faire face à une éventuelle ou à d'éventuelles flambées de violence. Mais sincèrement, j'y crois pas.
Alors, en plus de toutes ces mesures, vous avez également plus du maintien de l'ordre proprement dit. Vous avez pris plusieurs mesures administratives. Alors, bon, ça fait un an, mais les gens ont peut-être oublié. Il y a eu le couvre-feu d'abord, et ensuite, il y a eu toutes les restrictions de vente ou de transport d'alcool, d'armes, de carburant, l'interdiction de rassemblement. C'était à la mesure de la situation, ou est-ce que c'est un peu excessif ? Certains vous reprochent des mesures attentatoires aux libertés publiques. Est-ce qu'il fallait vraiment en venir là et est-ce que ça va se poursuivre dans le temps et jusqu'à quand ?
Beaucoup de questions.
Oui, on peut les détailler. Non, d'abord, est-ce que c'était indispensable? Bon, dans un premier temps, oui.
Non, mais pour moi, c'était une évidence. Il fallait les prendre, ces mesures. Ces mesures concernant l'usage et le transport des armes, concernant l'achat d'alcool. C'est un fléau, hein, l'alcoolisme en Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment un fléau. Et puis, sur les rassemblements aussi, parce qu'il fallait être en mesure, pour pouvoir gérer l'ensemble du territoire calédonien, interdire les rassemblements inopinés de nature à troubler gravement l'ordre public. Donc il fallait prendre ces mesures. Alors on a eu des résultats, hein. Vous savez, les atteintes aux biens, c'est-à-dire les vols de voitures, les attaques de commerce, c'est d'une baisse, mais très très importante, plus de 30%. Les accidents mortels. Nouvelle-Calédonie, ça a toujours oscillé entre 60 et 70 accidents morts sur la route par accident.
Par an.
Et d'ailleurs, par an. Et toujours sur fond d'alcoolisme. Eh bien, vous voyez, l'année 2024, on est tombé à 25. Comme quoi. Ensuite, toutes ces mesures ont largement contribué à réduire de manière verticale les affrontements. Bah oui. Si les rassemblements sont interdits, donc forcément, tous ceux qui se rassemblent posent problème. Nous, on réagit, et comme j'avais des moyens, eh bien, on a agi, et donc les affrontements ont progressivement baissé, et de façon très importante, au fur et à mesure que les semaines et les mois se sont passés au cours du deuxième semestre de l'année 2024. Et puis aussi, je dois vous dire que ce n'était pas uniquement la volonté du haut-commissaire, c'était une réponse attendu de la part des maires, l'ensemble des maires de la Nouvelle-Calédonie. C'est simple, à chaque fois que je souhaitais assouplir, par exemple, une mesure administrative concernant l'achat et l'emport d'alcool, je donne cet exemple, ou lever un peu le pied sur le couvre-feu, beaucoup de maires se manifestaient pour demander à ce que, pour ce qui concerne leur commune, ces mesures soient maintenues. Parce qu'eux-mêmes se rendaient compte de l'efficacité de ces mesures. Donc il fallait les prendre. Alors maintenant, jusqu'à quand? Parce que c'est votre question.
Le couvre-feu a été levé en fin d'année dernière.
Il a été levé le 2 décembre 2024. Et vous savez, du 13 mai au 2 décembre, vous vous rendez compte? Incroyable. Bon, on l'a réduit progressivement, la plage du couvre-feu. Mais vraiment, sincèrement, il fallait le faire. Ensuite, jusqu'à quand? Bon, là, il n'y a plus le couvre-feu, il y a d'autres mesures administratives. Il y a quand même l'inquiétude que je peux comprendre sur la date du 13 mai. On est très sensible ici en Nouvelle-Calédonie sur les dates d'anniversaire.
Et pour cause, c'est vrai que souvent, ça a été...
Ouais, c'est ça. Il y avait une date assez récente, le 10 février, il devait se passer des choses incroyables en Nouvelle-Calédonie. Donc on a été obligé de mobiliser des forces de manière importante, les déployer... les montrer et rassurer. Bon, bah, le 13 mai, évidemment, on va faire attention. Moi je ne tiens absolument pas à ce que la fébrilité s'empare des Calédoniens, parce que c'est une date d'anniversaire. Alors, moi, je ne serai pas là, mais j'en parle à mon successeur, et j'ai la directrice de cabinet qui n'est pas très loin, là, au moment où je vous parle. On sait que c'est un moment qu'il va falloir gérer, et on est prêt.
Alors, vous y faisiez allusion, les conséquences sociales et économiques sont absolument désastreuses, les conséquences de ces émeutes. Est-ce que l'aide de l'État a été à la hauteur? Est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait? Là aussi, souvent, on a dit, il est responsable de tout, maintenant il doit payer, et puis il ne fait pas assez, quoi. Est-ce que, selon vous, l'aide a été ce que la Calédonie pouvait attendre?
Bah écoutez, la première chose, c'était d'éviter que les collectivités, notamment les quatre communes du Grand Nouméa, mais pas que... et aussi la province sud, c'est-à-dire les collectivités qui ont été les plus touchées par ces émeutes, qui ont eu le plus de dommages. Il y a la collectivité Nouvelle-Calédonie, ses établissements publics aussi, parce qu'il y avait une concentration sur le Grand Nouméa de tous ces services dépendants, rattachés directement à ces collectivités. Nous, ce qu'on voulait éviter, c'est qu'il en ait même une qui soit en cessation de paiement. Donc on a évité qu'elle soit en cessation de paiement. Donc, il y a 80 milliards de francs pacifiques qui ont été injectés dans ces collectivités pour éviter une cessation de paiement. Ensuite, en début d'année de cette année, 2025, il y a un prêt garanti par l'État de 120 milliards qui a été accordée après un accord de la représentation, les élus de la représentation nationale, donc les députés et les sénateurs. Alors certains auraient préféré évidemment des subventions à un prêt garanti par l'État, mais il est garanti par l'État, donc il est sans risque. Et il va permettre, ce prêt, de contribuer à la relance, parce que la relance économique est nécessaire, je dirais même, elle est vitale pour permettre aux Calédoniens de se redresser et de tourner progressivement la page de ce qui s'est passé le 13 mai et les semaines qui suivent. Il y a eu aussi un soutien financier, je tiens à le souligner, auquel les maires étaient, notamment du Grand Nouméa, très sensibles pour la reconstruction des écoles et des bâtiments publics, parce que malheureusement, il y a eu 16 établissements scolaires qui ont été détruits. Il y a eu des bâtiments publics aussi qui ont été détruits. Et l'État a également pris en charge, ça se terminera au mois de juin, c'était pas prévu comme ça initialement, ça devait se terminer beaucoup plus tôt, en 2024, je parle du chômage partiel. Donc l'État assure le financement du chômage partiel. Donc, non, je pense que l'État était au rendez-vous, hein, très sincèrement.
Alors, les prêts, vous y faisiez allusion, sont contestés parce que certains préféraient que ce soit des subventions. Par ailleurs, ils sont accompagnés d'un certain nombre de conditions. Selon vous, et vous assistez à la réunion du gouvernement tous les mercredis, est-ce que les réformes qui sont envisagées, il y a eu un changement de gouvernement aussi entre les deux, mais est-ce que ces réformes vont dans le bon sens? Est-ce qu'elles vont permettre de redresser, de permettre une reconstruction, une relance de l'économie calédonienne? Et dans quel délai, selon vous? Ça fait déjà un an.
C'est pas des questions faciles que vous posez. Hein. Écoutez... Évidemment, il va falloir un peu de temps pour faire repartir l'économie calédonienne. Mais c'est lié à plusieurs paramètres, plusieurs facteurs. Il faudra évidemment que les indemnisations des compagnies assurées par les compagnies d'assurance s'accélèrent. Parce qu'il y a eu environ 1 milliard d'euros de dégâts déclarés. Toutes les entreprises n'étaient pas assurées. Il y a environ 300 millions d'euros, je parle en euros, de dégâts qui ont été indemnisés. Donc le compte n'y est pas. Et donc on s'évertue au plus haut niveau de l'État à faire en sorte que les compagnies d'assurance indemnisent tous ceux dont les entreprises ont été incendiées, détruites ou affectées. Ensuite, il y a les banques. Les banques locales en particulier, il faut qu'elles soient bienveillantes pour permettre un bon redémarrage de l'économie locale. C'est lié aussi aux contrats d'assurance. Elles vont regarder forcément les banques, si les entreprises qui demandent à pouvoir investir dans des projets structurants qui correspondent à des attentes de la population calédonienne, ils vont regarder si ces entreprises sont assurées. Il va falloir qu'elles soient souples, bienveillantes, encore une fois, pour permettre aux entreprises de redémarrer. Donc tout ça, évidemment, est adossé à un certain nombre de réformes. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie actuel est passé, d'ailleurs, est tout à fait complètement mobilisé sur la nécessité de conduire ces réformes. Elles sont indispensables parce qu'il va falloir, c'est mon avis personnel, qu'il y ait une réduction réelle et rapide des dépenses de fonctionnement, qui sont trop importantes ici. Je pense que c'est là où l'effort doit être appliqué. Alors on peut les décliner, parce que ça embrasse toute une série de réformes, mais il faut une volonté et il faut tenir ce cap, parce qu'on ne peut pas d'un côté recevoir une aide de l'État, même sous la forme d'un PGE, un prêt garanti par l'État, et de l'autre, ne pas conduire ces réformes. C'est un peu donnant-donnant. Et puis je pense que la population calédonienne espère une relance, espère une reprise de l'activité économique, parce que c'est la clé. La clé, ça permet aux collectivités locales d'avoir des rentrées fiscales, ça permet aux Calédoniens d'avoir des ressources financières, ça leur donne des perspectives. Donc c'est important, toutes ces questions centrées sur l'économie calédonienne que vous avez posées, Elisabeth.
Alors, monsieur le commissaire, vous connaissez très bien la Nouvelle-Calédonie. Vous avez déjà été secrétaire général il y a quelques années. Vous avez de la famille ici. Pour vous, est-ce que le vivre ensemble est durablement abîmé? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de réconciliation, d'apaisement entre les communautés qui est possible, qui est à portée de main? Vous voyez comment les choses?
Bon, le vivre ensemble a été abîmé, c'est certain, hein, parce que je pense que une grosse partie de la population, notamment du Grand Nouméa, c'est quand même 190 000 habitants, hein, le Grand Nouméa. Hein, c'est sur 270 000, donc il y a une très forte concentration démographique dans les quatre communes du Grand Nouméa. Ces affrontements, bah oui, tout le monde en a été témoin, ça laisse des traces. Donc il a été abîmé, c'est une évidence. Je dirais qu'aujourd'hui, bon, on est au mois d'avril 2025, il s'est écoulé à peu près un an, on y est presque. L'heure est à l'apaisement, pas encore à la réconciliation. C'est un défi pour tout le monde. C'est un défi pour les élus, c'est un défi pour les chefs d'entreprise, c'est un défi pour les Calédoniens dans leur ensemble, c'est un défi aussi pour les représentants de l'État en Nouvelle-Calédonie. Je pense que, vous voyez, c'est... toutes les questions que vous m'avez posées, je pense que c'est celle-là la plus importante.
Mais vous croyez que c'est possible, cette communauté de destin dont on parle beaucoup, dont on parle depuis des années, c'est la base de l'accord de Nouméa?
Oui, alors si vous me présentez l'affaire comme ça, je ne vais pas pouvoir vous dire autrement, autre chose que la communauté de destin, c'est quelque chose de très important, évidemment, mais... Ce qui est surtout important, c'est que les Calédoniens, après ce qui s'est passé le 13 mai, apprennent de nouveau à se faire confiance, à se pardonner aussi. Ça concerne les jeunes et les moins jeunes. Ceux qui étaient dans les rangs des émeutiers, qui sont tous des Français, je le rappelle. Il y avait des adultes. Il y avait aussi des jeunes qui étaient dans les lycées, qu'on a retrouvés sur les barrages. Cette espèce de folie collective qui s'est emparée d'un grand nombre de catégories de personnes. Mais il va falloir, oui, apprendre de nouveau à se faire confiance. Et pour se faire confiance, oui, il va falloir se parler, se rencontrer. Certainement pas stopper la communication, les échanges, ce serait pire que tout. Je pense que ça, c'est le point central. C'est un accord de paix qu'il va falloir. C'est pas l'accord de Matignon-Oudinot ou de l'accord de Nouméa, mais là, le lien de confiance a été... il n'est pas rompu, mais il a été bien, bien fragilisé. Il va falloir que... Toutes les familles, de quelles que soient leurs origines, que ce soit dans les services publics, que ce soit dans les entreprises, apprennent de nouveau à travailler, à échanger. Alors je sais que c'est le cas, hein, on ne part pas de zéro, hein, heureusement. Mais, ah oui, c'était tellement violent, tellement soudain. 40 ans après un premier accord, 25 ans après un deuxième, qui aurait pu imaginer ça? Je ne dis pas que... Ce 13 mai a complètement effacé, écrasé ces accords. Je pense que c'est excessif de dire cela. Mais psychologiquement, il y a des gens qui ont été très, très atteints. Je pense par exemple à des familles qui ont dû évacuer leur domicile, leurs habitations, qui ont été pillées, incendiées. Ça ne s'oublie pas comme ça. Ceux dont les entreprises ont été détruites. Je me mets à la place des chefs d'entreprise. Compliqué pour eux. Donc la réconciliation, de toute façon, est indispensable. Je pense que c'est le point, à mon avis, le plus difficile, le plus long. Mais il va falloir le traiter, ce point. Il faudra que tout le monde s'y mette. Si ce point-là, on ne le traite pas correctement, on va avoir des populations qui vont se regarder en chien de faïence, qui ne vont pas se faire confiance. Alors qu'en fait, ici, c'est une société calédonienne, c'est une société... qui est très diverse. Il y a des gens de toutes origines. Donc ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais c'est le point de mon humble avis, si je puis dire. C'est le point central.
Monsieur le commissaire, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. J'ai quand même envie de vous poser cette question, c'est que malgré les circonstances exceptionnelles que vous avez connues, et on vient d'en parler, malgré ces moments de tension exacerbée, de violence, est-ce que vous garderez quand même de bons souvenirs de ce séjour d'un peu plus de 2 ans en Nouvelle-Calédonie ?
Bon, je vais vous répondre là aussi très brièvement, parce que ça pourrait durer des heures. Moi, je garderai surtout le souvenir d'une équipe solide face à l'adversité.
C'est déjà un bon souvenir.
Tout à fait.
Bon, et maintenant, alors, ça aussi, c'est la question que tout le monde se pose. Quel va être votre programme des prochains jours ? Quelle est votre destination ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Et vous allez continuer, vous le disiez au début, à suivre quand même d'un œil ce qui se passe ici ?
Ou des deux. Ah, je vais accueillir tout d'abord le ministre d'État, le ministre des Outre-mer, qui va venir à la fin du mois. Je vais l'accompagner lors des rencontres qu'il aura avec les formations politiques locales. Bon, ça va être, pour ce qui me concerne, le dernier round en Nouvelle-Calédonie. Et puis ensuite, eh bien, je rejoindrai, selon comment on l'appelle, la métropole ou l'Hexagone. Voilà, et puis je me remettrai à l'ouvrage. Mais je ne peux pas vous répondre encore exactement quoi, parce que je ne sais pas, mais ça va se traiter tout cela.
On suivra ça de près. Vous connaissez votre successeur ?
Oui, oui.
Parce que vous... Il vous a succédé déjà.
C'est vrai, il m'a succédé.
C'est original.
Oui, il y a des hasards de professionnels comme ça. Oui, oui, on se connaît très très bien. On se connaît depuis très longtemps. Optiquement, comme ça, on peut se ressembler parce qu'on a eu la même formation. Lui, il avait hâte de venir en Nouvelle-Calédonie. Donc ça y est, c'est fait. Il va arriver.
Quel conseil vous pourriez lui donner ? Je sais que vous n'allez pas lui... Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il sache absolument quand il arrive ici et pour s'occuper d'un tel dossier ?
Sacrée question vous posez, là. Écoutez, il a une grande expérience professionnelle, militaire et civile. Moi, je n'ai pas de conseil particulier à lui donner. On échange, évidemment, avant son arrivée. Donc, je ne vais pas faire état ici de tous les conseils que je pourrais lui donner. Mais c'est quelqu'un qui a toutes les qualités pour remplir la mission qui lui a été confiée par le gouvernement. Sinon, ce ne serait pas lui, ce serait un autre. Ici, c'est pas des conseils hein, que je lui donne, mais il faut beaucoup écouter, il faut être patient, faut être réactif aussi. Faut un peu tout ça, mais tout ça, il l'a, hein, donc j'ai pas d'inquiétude pour lui.
Eh bien, merci, monsieur le commissaire Louis Lefranc, d'avoir accepté notre invitation au magazine Transparence. Quelques jours maintenant, avant votre départ de la Nouvelle-Calédonie, vous reviendrez ?
Bah oui, forcément.
Vous savez, vous êtes de la famille ici, vous voilà. Reviendrez. Et merci en tout cas pour votre disponibilité pendant ces 2 années au commissariat.
Merci Elisabeth.
La fin de ce magazine Transparence, il sera rediffusé, je le rappelle, dimanche soir, juste après votre édition de 17h45. Il sera également disponible en audio et vidéo sur le site internet d'RRB d'ici quelques instants. Passez une excellente après-midi, votre prochain rendez-vous d'information à 13h.